RFI 23h à Paris, 22h en temps universel.
24h en France sur RFI.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous de 30 minutes consacré à l'actualité française.
Christophe Paget.
À la une, la fin de la réunion de crise des Européens à Paris. Objectif, afficher un front uni après le début de dialogue sur l'Ukraine entre les présidents américains et russes. Le budget français 2025 a enfin été adopté. Victorien Villaume nous rappellera les étapes de ce très long processus qui a commencé l'été dernier. À Paris toujours, premier jour du procès de membres du groupe État islamique, accusés d'avoir été les geôliers de journalistes français en 2013. Un des accusés, Mehdi Nebbouche, a déclaré dès l'ouverture de l'audience « Je n'ai jamais été le geôlier de quelque otage que ce soit ». Compte rendu à suivre avec Laura Martel. Dans le sud de la France, 6 opposants à l'autoroute A69 se sont installés dans des arbres en face du tribunal administratif de Toulouse. Tribunal qui va examiner ce mardi les recours déposés contre cette portion d'autoroute de 53 km entre Castres et Toulouse. À suivre aussi le festival du cinéma de Berlin et le premier film d'un jeune cinéaste rwandais, Philibert Mbabazi. Ça s'appelle Minimals in a Titanic World. On parlera aussi de Robert Ménard, le maire d'extrême droite de Béziers dans le sud-est de la France, convoqué par le procureur demain mardi. Il avait refusé de marier une Française et un Algérien en situation irrégulière. Quant au journal de l'Outre-mer, il s'intéresse aujourd'hui à l'agriculture mahoraise, qui a beaucoup souffert du passage du cyclone Chido, mais qui sera quand même présent au Salon de l'agriculture à Paris.
Radio France Internationale.
La réunion informelle avait été organisée dans l'urgence par la France pour parler de l'Ukraine et de l'offensive diplomatique lancée sans les Européens par Donald Trump. Se sont rencontrés cet après-midi les représentants d'une dizaine de pays, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne et l'Italie, ainsi que les dirigeants de l'OTAN, de la Commission européenne et du Conseil européen. À l'arrivée, pas de déclaration commune ni d'annonce concrète, mais un constat, celui d'une nécessaire montée en puissance des Européens sur les questions de défense et de sécurité. Daniel Valo.
C'est sans doute Donald Tusk, le premier ministre polonais, qui a su le mieux résumer l'état d'esprit de ses homologues à la sortie de l'Élysée. Tous les participants réalisent que notre amitié avec les États-Unis est entrée dans une nouvelle phase, a-t-il déclaré, en pointant dans la foulée l'impérieuse nécessité qu'a désormais l'Europe d'investir davantage dans sa sécurité. Sur ce point, les Européens semblent d'accord, même si l'ampleur des dépenses qu'ils devront engager continue de faire débat. Pas de consensus en revanche sur l'autre sujet sensible abordé ce lundi soir à l'Élysée, l'envoi de militaires européens en Ukraine pour garantir la sécurité du pays face à la Russie en cas de cessez-le-feu. À l'issue de la réunion, le chancelier allemand Olaf Scholz a estimé hautement inapproprié de l'envisager, se disant même un peu irrité de voir le débat surgir avant même que des négociations aient débuté. À l'opposé, le Premier ministre britannique a redit qu'il était prêt à déployer des troupes. Keir Starmer, qui a qualifié de premier pas vital cette réunion informelle, affirmant qu'une nouvelle rencontre avec ses homologues européens pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine après son retour de Washington, où il doit rencontrer Donald Trump.
Un compte-rendu signé Daniel Valo.
24 heures en France.
Ça y est, il a été voté. Le budget 2025 a enfin été adopté, avec ce soir la dernière étape, c'était le vote du budget de la Sécurité sociale par le Sénat. C'est la fin d'une interminable et inédite séquence politique. Tout avait commencé l'été dernier. Victorien Villaume.
Août 2024, la France a un gouvernement démissionnaire et le mot budget commence à apparaître avec des articles qui racontent le retard déjà pris dans sa construction. La gauche dénonce un manque de transparence et un budget austéritaire en préparation. Marine Tondelier.
On nous parle de 2 milliards d'euros en moins pour les hôpitaux en 2025.
Octobre, Michel Barnier, nommé Premier ministre, présente sa copie du budget 60 milliards d'économies.
Il y aura un effort général à faire.
Oui, mais voilà, il ne cherche pas à tout prix un accord de non-censure avec la gauche et à la place réajuste sa copie progressivement en annonçant des concessions à l'extrême droite. Sa stratégie échoue. À 3 semaines de la fin d'année, le RN joint quand même ses voix à la gauche. Le gouvernement Barnier tombe, le budget avec. Yaël Braun-Pivet.
La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée.
Janvier 2025, François Bayrou arrive aux manettes. Le centriste, lui, essaye rapidement d'assurer à son gouvernement la survie grâce au PS et la démarche finit par aboutir. Olivier Faure.
Nous avons choisi de ne pas pratiquer la politique du pire.
C'est la clé qui permet de clore une séquence politique qui aura duré plus de 7 mois au total.
Victorien Villaume, le prochain congrès du Parti Socialiste aura lieu au mois de juin
annonce aujourd'hui du premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui en a profité pour dire qu'il était candidat à sa propre succession. Olivier Faure contesté en interne, certains demandent la rupture définitive avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Le PS qui a déposé une nouvelle motion de censure contre le Premier ministre François Bayrou, elle va être examinée cette semaine. François Bayrou, toujours empêtré dans l'affaire Betaram, critiqué pour avoir affirmé devant les députés qu'il n'avait pas été informé de l'existence de violences, notamment sexuelles, dans cet établissement du Béarn où certains de ses enfants étaient scolarisés. La France insoumise réclame sa démission. Et demain, François Bayrou va de nouveau répondre aux questions des députés lors des questions au gouvernement. Un exercice périlleux. Valérie Gasse.
François Bayrou va devoir peser chacun de ses mots, car nul doute que le Premier ministre va être interrogé encore une fois dans l'hémicycle sur l'affaire Betaram et ce qu'il en savait. Ce matin encore, le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, a accusé François Bayrou d'avoir menti la semaine dernière devant la représentation nationale, invoquant plusieurs témoignages recueillis depuis par la presse selon lesquels le Premier ministre avait connaissance des faits. Il en tire la conclusion que le chef du gouvernement doit quitter Matignon. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, a lui aussi estimé que François Bayrou avait menti et a expliqué que selon lui, s'il avait couvert ces violences, il devait en conscience démissionner. La tentative de déminage du chef du gouvernement samedi lorsqu'il est allé rencontrer des victimes à Pau et est apparu particulièrement ému face à la presse pour affirmer à nouveau sa bonne foi, annoncer des actions en faveur des victimes, la montée au créneau de ses proches comme Marc Fesneau pour expliquer qu'il n'avait pas connaissance des violences sexuelles quand il était ministre, n'ont pas suffi à calmer les critiques de la gauche qui continue donc son offensive politique.
Valérie Gasse, arrête de toutes les activités ludiques en prison, annonce ce lundi du ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Seuls pourront continuer les activités liées à l'éducation, la langue française ou au sport. La semaine dernière, le syndicat FO Justice s'était indigné de l'organisation d'une activité soins du visage pour des détenus offerte par une école toulousaine. Gérald Darmanin s'est dit choqué, d'où cette interdiction. La contrôleure générale des lieux de liberté s'est de son côté élevée contre cette interdiction pour des activités, a-t-elle souligné, prévues par la loi et qui réapprennent aux gens à revivre normalement. Ces militants de l'extrême droite sont en garde à vue depuis hier. Hier, une association de travailleurs immigrés du 10e arrondissement de Paris a été violemment attaquée par une vingtaine de personnes cagoulées armées de tessons de bouteilles alors qu'ils organisaient une projection de film sur le thème de l'antifascisme. Le film projeté était Z de Costa Gavras, Aram Beng.
Sur les vidéos de l'agression postées sur les réseaux sociaux, on y voit plusieurs individus cagoulés, tous vêtus de noir, tabasser une personne dans la cour d'un immeuble. En fait, il s'agit d'un membre de l'ACTIT, l'Association culturelle des travailleurs immigrés de Turquie, qui a été prise à partie par des extrémistes de droite. Ces derniers, dont la police estime le nombre à une vingtaine, ont pénétré de force dans la cour de l'immeuble, abritant les locaux de l'ACTIT, où avait lieu une projection d'un film sur le thème de l'antifascisme. Le pronostic vital de l'homme agressé, âgé de 30 ans, a été un temps engagé. Souffrant de plusieurs blessures, dont une plus importante, pouvant être le résultat d'un coup porté par une arme blanche, selon la police, il a été transporté à l'hôpital. Rapidement alerté, les forces de l'ordre arrivées sur place ont pu interpeller 6 des agresseurs actuellement placés en garde à vue. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire est ouverte par le parquet de Paris.
Aram Beng, on va maintenant s'intéresser aux Syriens installés en France. Après la chute du régime de Bachar al-Assad, nombre d'entre eux ont souhaité se rendre dans leur pays, au moins provisoirement, pour rechercher des proches, parfois disparus, mais en fait, ils ne pouvaient pas s'en aller en Syrie. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, avait évoqué la possibilité de dérogation au vu de cette situation particulière. C'est chose faite depuis le 13 février. Explication, Laurence Théo.
Jusqu'à présent, les bénéficiaires d'une protection internationale ne pouvaient pas se rendre dans leur pays sous peine de se voir retirer leur statut. Aujourd'hui, les réfugiés syriens ont ce droit. Gérard Sadik, de la CIMAD, Association de défense du droit des étrangers, explique la procédure.
Il faut que ces personnes se présentent au préfet, obtiennent le sauf-conduit contre l'échange de leur titre de voyage, et la durée est limitée. C'est-à-dire que les gens peuvent séjourner au maximum un mois dans le pays d'origine. Ils doivent être rentrés avant. S'ils ne rentrent pas, ils peuvent faire l'objet de ce qu'on appelle une mesure de retrait de protection.
La CIMAD salue une mesure rare.
c'était quelque chose qu'on préfigurait, c'est-à-dire qu'il y a eu dans le passé, notamment pour les réfugiés bosniaques, ce type de voyage exploratoire. C'est une mesure qui est décrite comme ça par l'OHCR. Donc, le changement de situation en Syrie peut inciter des gens à retourner dans leur pays, mais il y avait un risque qu'ils perdent leur droit au séjour en France. Donc c'est plutôt une bonne mesure pour permettre la transition démocratique dans ce pays.
En France, selon les chiffres de l'OFPRA, 43 000 Syriens ont bénéficié d'une protection.
Toujours à Paris, le procès des geôliers présumés du groupe État islamique s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises spécialement composée de Paris. 5 hommes sont accusés d'être impliqués dans la séquestration en Syrie d'otages occidentaux en 2013-2014, entre autres des journalistes. Seuls 3 sont présents, dont Medine Emouch, déjà condamné à perpétuité pour l'attentat contre le musée juif de Bruxelles, c'était en mai 2014. Et les 3 hommes ont nié avoir participé à la détention des otages. Compte rendu d'audience, Laura Martel.
Je suis coupable d'avoir intégré un groupe terroriste, d'avoir côtoyé des personnes qui ont commis des crimes, reconnaît le français Abdelmalek Tanem, parti en Syrie dès 2012. Mais je suis innocent du fait d'être un geôlier, je n'ai tué personne, pas fait d'attentat, jamais menacé la France, je ne voulais même pas revenir sur le sol européen, ajoute-t-il. Je suis innocent et je ferai tout pour le prouver, assure de son côté le Syrien Qaïs al-Abdallah, à qui il est reproché d'avoir facilité un enlèvement. Un peu plus tôt, Medine Emouch avait lui préféré se poser en combattant. Je n'ai jamais été le geôlier de quelque otage que ce soit, j'ai toujours été un soldat sur la ligne de front face aux forces de Bachar el-Assad. Et l'accusé de désigner les ex-otages qui lui font face, littéralement dans cette salle où le banc des partis civils est à l'opposé du box vitré séparé de quelques mètres. Je n'ai jamais rencontré ces personnes en Syrie. La première fois que j'ai vu Nicolas Hénin, c'était aux assises de Bruxelles, dit-il. Les journalistes français Nicolas Hénin et Didier François ont effectivement témoigné à son procès en Belgique. Ils ont donc déjà été confrontés à celui qu'ils ont reconnu comme l'un de leurs tortionnaires. Mais pour les familles d'otages, comme celle de l'humanitaire britannique assassiné David Hines, dont la tension était palpable, c'était une première, la première fois qu'elle se retrouvait face au visage de ceux qui incarnent pour elle les supplices subis par leurs proches au nom de l'idéologie mortifère du groupe État islamique.
Laura Martel, à Toulouse, 6 opposants à l'autoroute A69 se sont installés dans des arbres. Les écureuils, c'est leur surnom, font partie du groupe national de surveillance des arbres et ils veulent encourager le tribunal administratif de Toulouse. Ces arbres dans lesquels ils sont perchés sont situés juste en face. Le tribunal va examiner ce mardi les recours déposés contre cette portion d'autoroute de 53 km dans le sud-ouest de la France. Un chantier très controversé en raison de son impact environnemental. Linda Rousseau.
Thomas Braille est perché avec 6 autres militants en haut de 2 platanes en face du tribunal administratif de Toulouse avec une banderole « Courage, stop autoroute A69 ». Il demande l'annulation de l'autorisation environnementale de ce projet de 53 km qui relie Toulouse à Castres et donc l'arrêt des travaux.
C'est assez hallucinant de voir que ce projet a vu le jour et continue d'avancer malgré toutes ces problématiques-là. 400 hectares de terres agricoles qui sont sacrifiés, il y a eu plus de 17 hectares d'espaces boisés, des arbres d'alignement. C'est un projet antisocial puisque c'est 17 euros l'aller-retour pour 53 km. Qui peut se payer ça aujourd'hui? Pas grand monde.
Alors qu'une route nationale existe déjà entre ces deux villes, la rapporteure publique a estimé que ce projet n'était pas essentiel.
Il y a la rapporteure publique qui a clairement annoncé qu'il fallait annuler l'autorisation environnementale. Malgré ça, le projet continue. Donc nous, on est venu dire qu'on doit juger le droit comme le demande la rapporteure publique.
Reste à savoir si le tribunal suivra cet avis. Thomas Braille se dit déjà prêt à aller en appel.
Linda Rousseau, le ministre français de l'énergie Marc Ferracci annonce ce lundi que l'usine d'éolienne en mer du groupe Siemens Gamesa va investir 200 millions d'euros pour étendre son site français du Havre et y produire des pales parmi les plus longues du monde. Objectif, rivaliser avec la Chine en produisant des pales longues de 115 mètres contre des pales allant de 75 à 81 mètres aujourd'hui. RFI, 23h14 à Paris, 24h en France continue.
24 heures en France, Christophe Paget.
Et on va se rendre maintenant au Rwanda en passant par l'Allemagne, car Minimals in a Titanic World, le premier long métrage de Philibert Mbambazi, a été sélectionné au Festival du cinéma de Berlin. Elisabeth Le Quéré a rencontré ce jeune cinéaste rwandais.
Philibert Mbambazi, bonjour.
Bonjour.
Votre premier long métrage trace le portrait d'Anita, une danseuse qui se produit dans un club à Kigali. On la découvre à un tournant de sa vie. Elle veut devenir chanteuse, elle compose ses propres chansons et dans le même temps, on apprend que son compagnon vient de mourir dans des circonstances un peu mystérieuses.
Oui, c'est ça. Le film donc parle de ça et il y a un thème qui est le deuil parce que Anita et les amis du défunt se rencontrent pour faire le deuil.
Anita, elle a du mal à trouver sa place dans le groupe.
Oui, voilà, tout le film est autour de cette sorte de nouvelle famille qui se crée, mais surtout le personnage d'Anita qui sait de suivre son chemin, de son ambition de chanteuse et qui crée et qui essaie de trouver aussi une sorte de solace dans la création.
Une sorte d'épanouissement. Justement, on a l'impression que ce film, c'est le portrait d'une génération qui se cherche dans un monde où il y a très peu d'adultes et où les adultes finalement n'aident pas beaucoup et sont plutôt... des prédateurs.
Pour moi, l'idée, c'était un peu de détourner la situation parce que le deuil, c'est pour la famille. Et moi, j'essaie de retourner la situation. Donc, le deuil, c'est pour les amis aussi. Et voilà, le Rwanda, c'est un pays où 60% des gens sont à moins de 30 ans. Donc, ils sont nés après 94. Et je cherche à faire un film qui leur donne place, où ils sont au centre de tout. Voilà. Nungura ni buhari eh
inzire mubusa ni yamfite kusa. Le titre de votre film, Philbert Mabazi, c'est Many Morts in the Titanic World. Comment pourrait-on traduire en français?
C'est des êtres minimes dans un monde immense. Ce n'est pas un voyage épique qu'on va faire avec ces personnages. Pour moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est des personnages qui peuvent paraître simples, mais qu'on va suivre et qu'on va voir au-delà du contexte sociopolitique.
C'est un voyage émotionnel que vous proposez aussi avec tous les moyens du cinéma, de la musique et surtout de la danse.
Oui, Anita aussi, en traversant tout cela, est inspirée et commence à écrire des chansons un peu inspirées par la perte qui est négative d'une façon, mais où elle va trouver quelque chose à partager avec les gens.
Philbert Mabazi, à quoi ressemble aujourd'hui le paysage du cinéma à Kigali?
Le paysage du cinéma à Kigali est très inspirant. Il y a un bon nombre de jeunes cinéastes. C'est des gens qui travaillent beaucoup dans la solidarité et qui partagent la passion parce que chez nous, il n'y a pas d'école de cinéma, il y a un fonds qui commence à se mettre en place, qui prend encore sa vitesse petit à petit. Mais donc, malgré tout, c'est vraiment autour de cette communauté-là des cinéastes et la passion et l'ambition qui les traverse, qui est aussi un peu contagieux envers tout le monde, qui nous fait continuer à faire des films. Et donc, ça donne beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup d'inspiration. Et c'est très, très prometteur.
Philbert Mabazi, merci beaucoup.
Merci à vous.
Philbert Mabazi au micro d'Elisabeth Le Quéré. Et le Festival du cinéma de Berlin, c'est jusqu'à ce dimanche.
Reportage France.
Retour en France avec Robert Ménard. Le maire d'extrême droite de Béziers, dans le sud-est, est convoqué par le procureur demain mardi. Il y a un peu moins de 2 ans, il avait refusé de marier une Française et un Algérien en situation irrégulière. Un Algérien sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Ce refus est illégal et Robert Ménard encourt donc 5 ans de prison, une amende de 75 000 euros et une peine d'inéligibilité. Marie Cazadebé a retrouvé Eva, la fiancée, Mustapha lui, a depuis été expulsé.
On n'imagine jamais que le jour qui est censé être le plus beau jour de sa vie va se passer comme ça.
C'est en regardant la télévision qu'Eva et son fiancé apprennent la nouvelle. Sur le plateau de la chaîne privée CNews, le maire de Béziers, Robert Ménard, annonce en direct qu'il ne les mariera pas. Nous sommes la veille de la cérémonie.
Vous allez le marier ?
Mais bien sûr que non. Ce type est en situation irrégulière. Mais si on veut le mettre dehors, mais écoutez, que la police des airs et des frontières, je leur donne rendez-vous vendredi à la mairie, ils le trouveront, puisqu'il vient à 11h se marier.
Quitte à vous mettre, vous, hors la loi.
Mais bien sûr, tant pis, quand le droit est à ce point contre la logique, le bon sens, l'évidence.
Moi, on est stupéfait, on ne dort pas de la nuit, je décide quand même d'aller voir M. Ménard pour discuter avec lui, parce que je me dis qu'il peut déléguer un officier d'état civil, mais qu'il ne peut pas gâcher le jour J, l'amour de deux personnes pour des opinions politiques. malheureusement, quand on se présente à l'heure du mariage, c'est là que le drame a commencé, entre guillemets.
Une nuée de caméras les attend sur le parvis de la mairie. L'élu a prévenu la presse. Le couple parvient malgré tout à atteindre l'entrée du bâtiment.
Et là, en fait, la sonnette d'alarme retentit. Les portes de la mairie nous sont fermées au nez à la demande de Monsieur Ménard pour exprimer son refus. On ne traite pas les gens comme ça.
Et deux semaines plus tard, Mustapha est renvoyé en Algérie. Le mariage n'aurait jamais pu empêcher son expulsion. Mais pour Eva, les deux événements sont forcément liés au vu de la médiatisation de l'affaire et de la mobilisation du maire.
Dans la semaine qui a précédé le mariage, j'ai saisi tout le monde. La police des arrêts des frontières, le sous-préfet, le préfet, le ministre, le procureur en leur disant « Mais qu'est-ce que vous attendez pour l'appliquer l'OQTF que vous avez délivré ?»
L'avocate du couple a saisi la justice pour dénoncer une expulsion illégale. Elle soutient que son client n'a vu ni avocat ni juge avant d'être placé dans un avion. Le tribunal administratif se prononcera sur ce volet vendredi. En attendant ce mardi, c'est Robert Ménard qui se retrouve face à un procureur pour avoir refusé de marier Eva.
J'attends quelque chose qui soit à la hauteur de ce qu'on a subi, de ce qu'on a ressenti. On n'atteint pas la vie des gens comme ça. On remet pas en cause leur amour, on les dénigre pas comme ça. Et à la télé et partout, c'est pas rien ce qu'il a fait.
Depuis 20 mois, Eva multiplie les allers-retours en Algérie pour voir Mustapha, qui n'a pas souhaité s'exprimer. Sa compagne le dit tout aussi désemparée.
Un reportage de Marie Cazadebé.
Le journal de l'Outre-mer.
L'agriculture mahoraise a beaucoup souffert du passage du cyclone Chido, mais elle sera tout de même bel et bien présente au salon de la Porte de Versailles, salon de l'agriculture, qui ouvre ses portes dans une semaine. Benoît Ferrand, bonsoir.
Bonsoir. Vanille, thé, épices, récoltées bien sûr avant le cyclone, seront donc envers et contre tout au rendez-vous parisien, comme l'explique Ibrahim Fonté de la Chambre d'agriculture de Mayotte. Il est au micro d'Ayata Tarao.
Le salon, c'est pas vraiment pour vendre, c'est de la promotion. On y va pour promouvoir le produit de l'île. Les agriculteurs sont là pour tisser des liens avec des acheteurs, pour tisser des liens avec, ils ont déjà leurs fournisseurs sur place là-bas qui passent leurs commandes. Donc on est là-bas pour montrer que l'agriculteur de Mayotte est là. Et voilà le Chido qui arrive, ça nous donne encore plus de force pour être là-bas, pour montrer que malgré cette catastrophe naturelle, mais on est toujours présent et on va y aller avec encore plus de produits que les autres années précédentes.
Et quelles sont vos attentes ?
C'est d'aller vraiment discuter au ministère, c'est de rencontrer les élus. On a, au salon, on a pas mal des visiteurs officiels qui viennent nous voir. C'est l'occasion de parler avec eux, de revendiquer nos doléances pour montrer qu'on a vraiment besoin du soutien pour relever l'agriculture de Mayotte qui est vraiment à terre aujourd'hui.
Direction l'océan Pacifique avec la rentrée scolaire ce lundi pour les 62 660 élèves collégiens et lycéens de la Nouvelle-Calédonie. Une rentrée 2025 forcément pas tout à fait comme les autres sur le territoire du Caillou après une année 2024 très particulière. Mejiko Pecheisi.
Après une année 2024 particulièrement complexe, cette année sera placée sous le signe d'un retour à la normale. Les mots d'Isabelle Champmoreau en charge de l'enseignement. À la normale, mais avec des effectifs en moins. Suite aux événements de mai dernier, 1000 élèves du secondaire ont quitté le territoire et 2000 écoliers la province sud. Pas de fermeture de classe pour autant, mais des ajustements. Toujours liés au 13 mai, 5 écoles fortement dégradées en province sud ont dû fermée totalement. Elle représentait en tout plus de 1100 élèves. Aujourd'hui, de manière globale, 16 780 écoliers rentrent dans le sud, 4 754 dans le nord et 1750 aux loyautés. Pour ce qui est du collège et du lycée, ils sont 30 500 élèves du privé et du public à reprendre les cours. Du côté de l'enseignement agricole, 500 élèves font leur rentrée, des effectifs qui se maintiennent et qui montre que le secteur se porte bien. Enfin, sachez que 3 communes reportent leur rentrée, Ponériouin pour la primaire, Canala pour tous ses établissements, et Ouégua pour une de ses écoles.
Nouvelle-Calédonie, suite le transfert entre guillemets de la compagnie domestique Aircal, Air Calédonie, sur le site de l'aéroport international de la Tontouta aura lieu. Et il aura même lieu le plus rapidement possible. Déclaration sans ambiguïté de Samuel Népéoun, membre du gouvernement local en charge du transport intérieur et ancien président d'Aircal. La perspective ne fait pas que des heureux. L'aérodrome de Magenta étant situé au cœur de Nouméa et la Tontouta à 47 km plus au nord. Mais il s'agirait purement et simplement d'une question de survie pour Aircal, en très grande difficulté financière. Écoutez Samuel Népéoun au micro d'Aurélien Paul.
Ces transferts et regroupements des compagnies aériennes. Regroupement des compagnies aériennes, ça permet de rationaliser les coûts, de mutualiser des services, et surtout, encore une fois, réduire considérablement les coûts pour pouvoir offrir un service de qualité, parce que deux plateformes, c'est tout ce qui est service annexe dans une compagnie aérienne. Pour les compagnies aériennes, vous avez la tour de contrôle, vous avez les services au sol, vous avez les pompiers, tout ça, ça coûte très cher. Donc à un moment donné, c'est aussi de la rationalisation. Et si on veut que Air Calédonie s'en sorte, Air Canada aussi, il faut travailler très sérieusement sur la masse de charges. Et on pourra offrir de meilleurs services, de meilleurs prix, certainement, mais il faut déjà travailler beaucoup sur la structure de charges de chacune des compagnies.
Air Calin étant Air Calédonie International. Fin de cette édition. Bonne soirée.
C'est bien noté. Bonne soirée, Benoît Ferrand.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'hygiène intime au féminin avec Caroline Paré et le docteur Abdoulaye Diop.
Docteur Abdoulaye Diop, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes gynécologue obstétricien à la clinique Bellevue à Dakar au Sénégal. Quand on parle d'hygiène intime au féminin, est-ce qu'il y a des mises en garde particulières, des gestes à éviter absolument ?
Oui, il y a beaucoup de mises en garde à faire parce qu'on remarque qu'il y a souvent un excès dans l'hygiène intime chez les femmes. Et la mise en garde, c'est d'en faire le minimum possible. Donc l'hygiène intime parfaite, c'est de l'eau, utiliser de l'eau et utiliser le moins possible les savons et autres antiseptiques.
Ça veut dire que la plupart des femmes qui consultent, qui viennent vous voir en général, c'est davantage pour des excès d'hygiène intime que pour pas assez d'hygiène intime ?
Exactement. La plupart des manifestations que ces femmes remontent, telles que les démangeaisons ou certaines pertes, ne sont dues qu'aux excès. L'excès d'utilisation de savon va perturber et détruire la flore vaginale protectrice et c'est ce qui a l'origine de cette apparition de plein de démangeaisons ou plein de pertes. Donc ce sont les excès qui posent plus problème que le défaut d'hygiène.
Et comment faire la part des choses face à la multiplication des recettes ou conseils sur Internet ?
C'est dommage, il y a une floraison justement de ces recettes de grand-mère sur Internet et la meilleure chose à faire, c'est d'en faire le minimum, de laver les parties intimes avec de l'eau, du savon ou avec n'importe quel gel intime à condition de diluer ce gel, privilégier le savon de Marseille et surtout de le faire le moins possible, en moyenne une fois par semaine maximum.
Merci docteur Abdoulaye Diop. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on va parler de l'importance de l'activité physique, de la lutte contre la sédentarité pour rester en forme, avec le médecin du sport, le docteur Jean-Marc Sen, qui va répondre à vos questions. Motivation, sport, maladie chronique, prévention, hydratation. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Merci Caroline Paré et à tout à l'heure. C'est la fin de 24 heures en France. Merci à Valentin Vanner à la réalisation et Loïc Bussière à la rédaction chef. Dans quelques instants, place à Afrique Soir. En attendant, sachez que demain à 8h45, le nom du lauréat ou de la lauréate du prix RFI Découverte 2025 sera révélé en direct. Notez bien 8h45 heure de Paris, 7h45 en temps universel.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.
Appelez-nous, exprimez-vous. Chantal Leroux.
Au Togo, après les législatives d'avril, le parti présidentiel vient de remporter les premières sénatoriales de l'histoire du pays. Un succès qui ouvre la voie à l'élection de Fornia Simbe comme président du Conseil. Que vous inspire ce nouveau régime parlementaire ?
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Ce mercredi, vivez sur RFI la soirée spéciale Ligue des Champions.
Cédric de Oliveira.
Objectif 8e de finale, le Real Madrid de Kylian Mbappé retrouve Manchester City une semaine après sa victoire 3-2 en Angleterre. Pep Guardiola et les Sky Blues rêvent de prendre leur revanche. Le PSG tentera lui de confirmer sa large victoire à Brest 3-0. Les barrages retour de la Ligue des Champions, ce sera à vivre en direct et en intégralité ce mercredi sur RFI à partir de 19h40 TU.